de bord du capitaine. Nous avons mis le cap sur la planète Zircon 2. Le moral de l'équipage est au plus bas. Il y a 2 semaines que nous n'avons pas eu notre dose de galettes protéinées survitaminées, aussi intitulée steak haché.
Capitaine, un vaisseau aux couleurs de pizza cosmique vient d'entrer dans le secteur.
Pizza cosmique ? La cantine la plus pourrie de toute la galaxie ? C'est justement ce qu'il nous faut, Hal. Mettez-nous en communication immédiatement.
Bonjour, capitaine Maximus. Puis-je prendre...
votre comment...
Certainement, odieuse créature gluante. Ce sera une pizza hawaïenne avec double anchois et un max de dinde.
Double anchois et max de dinde. C'est noté. Un breuvage... bulle bon, hissante avec ça?
Bien sûr! Mais, attendez un moment. Pouvez-vous me répéter à nouveau la commande?
Houble, anchois et un max de Inde.
Mais attendez une minute! J'ai vu clair dans votre jeu. Vous êtes un xandomorphe! Il est bien connu à travers la galaxie que les xandomorphes sont incapables de prononcer la lettre D.
Ah! Je vous avais presque eu cette fois, misérable humain!
Hal, mettez les phasers à photons à la puissance maximale! Feu! Échappée belle. Revenons au programme habituel, Hal. Dites-moi quelles sont les tâches à faire aujourd'hui.
Nous avons un reportage sur les journées ludiques de Granby. Une entrevue avec Philippe Despalières, créateur du jeu Loup-garou de Tire-ce-lieu. Olivier Renard qui parlera d'un projet immersif dans le monde d'Amos d'Arabo et Stéphane Thériault de la convention de jeux Royal Coin. De plus, nous aurons des chroniques, des nouvelles insolites et l'agenda ludique.
Très bien, Hal. Mettez le cap sur Clostridium 6 à la puissance maximale.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scott, il me faut la puissance maximum.
Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire ludique Puissance Maximale.
Puissance Maximale, c'est votre magazine d'information ludique. Et puis cette semaine, c'est très chargé.
Oui, et d'ailleurs, il faut souligner que les gens qui vous parlent, c'est Sébastien Léonard et François Gécouillard.
Qui ne sont rien d'autre que les deux, finalement, capitaines du vaisseau de cette semaine, puisque nous sommes en plus en compagnie d'un autre très grand capitaine. Il s'agit de Philippe de Palière, que nous avons la chance, l'immense chance d'avoir en onde aujourd'hui.
Est-ce que tu entends?
Oui,
ok, c'est bon. Donc, okay. Salut Philippe. Philippe, bonsoir. Il faut indiquer aux gens que c'est le créateur, qui a collaboré à la création du jeu Les Loups-Garous de Tiercelieu.
Oui, nous sommes deux. C'est ça. L'autre capitaine est dans une autre galaxie en train de se reposer. Il s'appelle Hervé Marley.
Et on va commencer par parler des journées ludopathiques de Granby qui a eu lieu en fin de semaine. On y était tous.
Exactement. En fait, pendant que nous vagabondons dans l'espace, nous avons aussi travaillé ce week-end. Nous ne faisons pas uniquement nous amuser. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de l'émission, c'est que nous sommes toujours partout et quand ça bouge et puis que ça parle de jeu. Puis on était donc la semaine dernière, on vous avait fait une petite entrevue avec Yfaneuf, le gourou des journées ludopathiques de Granby. On vous avait dit qu'on y serait aujourd'hui. Eh bien, on va vous raconter ce qui s'y est passé. Et puis, c'était vraiment une très belle activité. En tout cas, moi, j'en garde un souvenir impérissable. Deux journées extraordinaires avec plus de 200 personnes qui étaient sur place pour jouer à des jeux de société et à des jeux de plateau.
Justement, décrivons un peu aux gens qui ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est les journées ludopathiques de Granby? Il faut dire que c'est probablement le plus grand événement ludique de jeux de plateau annuel au Québec. Et ça se passe à Granby. Donc, c'est à laquelle édition, là, maintenant? C'est la cinquième année, je pense, d'existence.
On est rendu à la cinquième année, exactement. 5 ans pendant lesquels, l'engouement pour les jeux de plateau puis les jeux de société n'a pas arrêté d'augmenter. Puis cette année, ça s'est encore concrétisé avec deux merveilleux invités, puisqu'il y avait Philippe de Palière, qui est aujourd'hui avec nous, mais qui était aussi là-bas, qui avait été invité. Et on avait aussi Clémence de Ravensburger, qui était ici aussi pour nous parler exactement. Plus énormément de nouveautés, puisque ça nous a permis d'essayer des nouveaux jeux, de rencontrer énormément de nouveaux joueurs aussi, parce que c'est des nouvelles têtes. Chaque année, beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs, donc des personnes de plus en plus intéressantes. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'engouement. C'est ce qui fait plaisir, en fait.
Peut-être justement, peut-être souligner les jeux les plus intéressants, les jeux phares, disons, de l'événement. Quels jeux qu'on pourrait nommer?
Moi, je t'avouerais que je pourrais peut-être commencer par ma découverte de ce week-end, parce qu'en fait, c'est une fausse découverte. On m'a fait jouer à StarCraft, qui n'est pas encore sorti. Et StarCraft, tout le monde le connaît, évidemment. Oui. C'est le fameux jeu vidéo. En tout cas, c'est une reprise du jeu vidéo qui porte exactement le même nom. Il n'est pas encore sorti, il ne devrait pas tarder à sortir ici au Québec. Il s'agit d'un énorme jeu. On parle de, que ce soit au niveau de la boîte, qui est déjà très très grosse, du nombre de pièces qui est inimaginable, des pièces d'une qualité exceptionnelle. Mais quand on dit gros jeu, on dit une partie extrêmement longue, des tours qui parfois peuvent paraître interminables. Donc pour tous ceux qui ont vraiment apprécié ou qui apprécient les très gros jeux comme Twilight Imperium par exemple, et qui ont apprécié aussi la version informatique de StarCraft, je pense que ça va sûrement devenir un incontournable très rapidement.
Absolument. Et Philippe qui est avec nous, est-ce que toi-même tu as fait des découvertes peut-être en cette fin de semaine?
J'ai fait des découvertes, mais plutôt du côté des prototypes, des nouveaux auteurs québécois. Il y avait un très beau jeu avec un caribou qui essayait de se soulager.
Moose Booze.
Voilà, c'est ça, Moose Booze. Et ça, c'était très rigolo. J'ai essayé un autre jeu qui se passait en Chine avec des querelles de plein de factions qui étaient très bien.
Ça, c'est Nankin.
Voilà, c'est ça, c'est Nankin. Et puis après, on m'a fait jouer, évidemment, on m'a obligé à faire jouer à mes propres jeux. j'ai rejoué à des vieilleries que j'avais pas joué depuis longtemps.
Comme quoi?
Comment il s'appelait déjà? Il s'appelait Capitole, que j'aime beaucoup. Je sais plus l'auteur, c'est terrible.
Il faut dire que les jeux que tu as parlé, les prototypes, c'est normal, c'est les gens ne savent pas c'est de quels jeux, parce que justement c'est des prototypes. Les créateurs de jeux viennent à ces genres d'événements-là pour faire découvrir leurs jeux, les tester aussi, parce que les gens souvent qui jouent sont des éditeurs, sont des gens qui connaissent le jeu, Et donc, finalement, ils savent, ils connaissent les jeux, ils peuvent donner des commentaires constructifs.
Exactement, c'est ça la grande originalité aussi des journées ludopathiques, c'est finalement de faire rencontrer les nouveaux créateurs qui ne sont pas encore connus avec des maisons d'édition, excusez-moi, qui pourraient peut-être dans un avenir prochain pouvoir éditer leurs jeux. Donc des très très bonnes journées, deux journées. La semaine prochaine, on fera un reportage pour vous donner une petite idée de l'ambiance générale de ces deux journées exceptionnelles. Mais pour l'heure, je pense qu'on va poursuivre à travers l'espace.
Et on va écouter une pièce musicale. Laquelle est-elle, Sébastien?
Il s'agit d'une découverte. En fait, il s'agit tout simplement d'un bootleg, un mélange de Star Wars et... La surprise.
Ah, voilà, voilà.
Je vous l'envoie tout de suite, ça va vous donner une idée. Tout de suite, on sent un petit peu plus dans l'ambiance. Star Wars.
Vous écoutez avec puissance maximale.
Chemical Brothers. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. Voilà, de nouveau en onde, et oui, immédiatement. Et puis, on va tout de suite changer d'ambiance, parce que c'est toujours agréable de pouvoir se retrouver dans notre fameux vaisseau, le vaisseau puissance maximale, qui traverse la galaxie des jeux.
Avec Sébastien Léonard, François Gécouillard, et nous avons un invité aujourd'hui, une personne très reconnue, n'est-ce pas, parce qu'il a créé le jeu de rôle, le jeu, en fait, immersif, Loup-garou de Tiercelieu. Donc, c'est Philippe Depalière. C'est un auteur français de jeux de société. Et c'est aussi un éditeur. Il a participé à la création de nombreux jeux, dont évidemment le très populaire Loup-Garou de Tiercelieu en 2001 avec Hervé Marley. Ou Hervé Marley, peut-être?
Oui, c'est ça, Hervé Marley. Parfait. Voilà.
Tout d'abord, Philippe Depalière, merci beaucoup de participer à cette émission. Puis, je vais surtout un gros merci parce que vous avez réussi à égayer toutes nos soirées de Noël en famille. Grâce à vous, à l'heure actuelle, on peut passer des soirées de famille de Noël très agréables avec les tons, les tantes, les matantes et toute la famille autour d'un bon loup-garou de Tiercelieu, parce que c'est ça la grande originalité que vous avez réussi à faire venir au Québec. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que c'est le même phénomène en France exactement?
Le phénomène a démarré en France, mais j'avoue qu'au Québec, il me surprend parce qu'il est encore plus fort et plus puissant, maximalement plus puissant.
Mais comment vous expliquez ça, justement, l'intérêt des Québécois pour les loups-garous?
Peut-être l'envie de se réchauffer, de se retrouver. Je ne sais pas, je venais en voyage pour ça, je n'ai toujours pas trouvé. Je sais que du côté de la France, on aime bien retrouver cette idée de veiller autour du feu ou de se retrouver un certain nombre. D'habitude, on joue souvent à des jeux à 2, 3, 4, 6. Et là, on pouvait être au moins 8 et jusqu'à 20 sans problème. Certains jouent à plus que ça. Et ça a été l'occasion de que toutes les générations puissent jouer ensemble aussi.
Peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse. Est-ce que tu pourrais, pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, faire un petit descriptif de ce qu'est le jeu?
Allez, on essaye.
Allons-y.
Alors,
lançons-nous.
On est dans un village, le petit village de Tiercelieu. Chaque joueur va se faire distribuer une carte. Sur cette carte, il y aura soit un horrible loup-garou, soit un gentil villageois, soit un villageois un peu plus malin qui a des compétences particulières. Il regarde cette carte, puis la cache, puis il va y avoir une succession de jours et de nuits où il va se passer des choses. La nuit, tout le monde ferme les yeux, puis les loups-garous ouvrent les yeux et désignent une proie parmi les villageois. Donc cette personne, au petit matin, est éliminée. Le village se réveille, voit qu'il y en a un d'entre eux qui est mort. Ils se réunissent sur la place du village et ils discutent, ils débattent et puis ils votent à la fin pour savoir quelle personne est éliminée, quelle est la suspecte, qui est le loup-garou. Le problème, c'est que parmi les gens qui votent, il y a des loups-garous, donc ils vont essayer de nous dire un peu n'importe quoi. S'ils ont réussi à éliminer un loup-garou, ils sont très contents, ils continuent le combat, sauf qu'il faut aller se coucher, et la nuit, les loups-garous restants vont encore faire des steaks de villageois. S'ils n'y arrivent pas, et ben bon courage pour la prochaine soirée. Et on fait ça des jours et des nuits. En fait, ce n'est pas des jours et des nuits, ça dure 5 minutes chaque session, quelquefois plus quand il y a des bavards, jusqu'à ce que soit tous les villageois soient éliminés, dans ce cas-là, c'est les loups-garous qui ont gagné, ou soit tous les loups-garous sont éliminés, dans ce cas-là, c'est les villageois qui ont gagné. Alors bien sûr, il y a des pouvoirs spéciaux, des cartes spéciales, et puis nous avons sorti l'année dernière une extension qui s'appelle Nouvelle Lune.
Et justement, c'est quoi cette nouvelle extension-là pour les gens qui seraient intéressés à peut-être à l'acheter?
Alors, il y a plein de choses dedans. En fait, c'est le jeu des loups-garous, c'est aussi développer des compétences de meneur de jeu. Et ça donne beaucoup de matériel pour faire des nouvelles choses. Donc, vous avez d'abord un livret avec une dizaine de nouvelles règles qui peuvent être des principes pour décorer un peu votre maison, mais des règles assez précises. Je ne vais pas dévoiler tout. Vous avez des nouveaux personnages, 5 nouveaux personnages, et vous avez des cartes événements, une cinquantaine de cartes événements, qui fait que tous les matins, en plus de tout ça, il va y avoir des choses qui vont se passer et qui vont remettre tout en question dans le village.
Voilà. Puis là, il s'agit vraiment d'un jeu extraordinaire d'ambiance, parce que c'est vraiment, c'est l'ambiance, c'est tout le côté social de ce jeu-là que moi je trouve fascinant, c'est de voir les gens essayer de trouver des arguments, essayer de pénétrer à l'intérieur de l'esprit des autres pour essayer de découvrir exactement ce qu'il représente. Est-ce que c'est un loup-garou? Et puis c'est ça qui est la magie de ce jeu-là, c'est vraiment l'ambiance.
Moi, ce qui m'impressionne dans ce jeu-là, c'est le climat de paranoïa que ça engendre, et puis finalement, tous les villageois finissent par s'entretuer en pensant que ce sont des loups-garous.
Eh bien, mais il y a tout qui ressort chez nous. On aime mentir, donc c'est le moment d'essayer, comme ça fait, c'est pas grave. On aime essayer d'enquêter, et on peut le faire. Mais il y a aussi que, comme les règles sont assez simples, on peut se concentrer sur ce qu'on appelle le role-playing, c'est-à-dire sur la manière d'interpréter, sur l'enquête. Ce qui a fait que ça soit un succès, c'est que le jeu n'est pas trop complexe. Les gens peuvent avoir peur à la première partie, mais en 5 minutes, on a compris comment ça marche.
Dis-moi, tu possèdes aussi une maison d'édition qui s'appelle Lui-même. En fait, tu as sorti Loup-Garou sous ce label Lui-même. J'imagine que tu ne fais pas que Loup-Garou tire ce lieu. Tu as aussi toute une collection de différents jeux qui sont sortis sous ce label-là. Quels sont ces jeux?
Alors déjà, de toute façon, je suis auteur avant d'avoir fait les Loup-Garou tire ce lieu. Ça fait 20 ans que je fais des jeux de société. Donc j'édite en tant qu'auteur chez différents éditeurs, dont ma propre maison. Et cette maison a édité après un jeu qui s'appelle Comme des mouches, un jeu qui s'appelle Amazon. Mm-hmm. Et puis je me suis mis à avoir envie d'éditer des autres comme moi, parce qu'il y avait non seulement des jeux un peu épuisés que j'avais envie de remettre au goût du jour, et puis aussi certains auteurs qui m'ont montré des projets que j'ai beaucoup aimés. Donc il y a eu l'édition d'un jeu qui s'appelle Medici de Rainer Knizia, qui est un
grand classique.
Un grand classique. Ouais. Et très prochainement, un jeu de Dominique Erhardt et de Michel Lallet. Michel Lallet, qui est un des inventeurs d'Abalone, et Dominique Erhardt, qui est aussi un grand créateur de jeux de société, qui m'ont fait l'honneur de me confier leur jeu. Et qui sortira, allez, on va dire, dans moins de 6 mois, parce que je suis pas pressé.
Dis-moi, est-ce que tu te sens maintenant, à l'heure actuelle, plus créateur de jeux ou plus éditeur?
C'est difficile, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est le travail de l'éditeur qui prime. Et dans le travail de l'éditeur, il y a plusieurs boulots aussi, puisque quelquefois je fais de la promotion, comme aujourd'hui par exemple. Quelquefois je fais la rédaction des règles, quelquefois je fais du business sur les salons, comme la semaine prochaine, je serai à un salon québécois pour aider mon distributeur. Donc de toute façon, même dans le rôle d'éditeur, il y a plein de casquettes différentes. Et puis quelquefois, je ferme la boutique au sens figuré et je me mets à travailler sur mes propres projets.
Voilà. Et il t'arrive aussi de jouer, évidemment.
Et de toute façon, tous les soirs, je joue, si je peux.
Tous les soirs. Eh bien. Et il faut dire aussi aux gens que, d'ailleurs, nous sommes avec Philippe de Palière. Et en recherchant sur le jeu Loup-Garou de Tire-sur-Lieu, je me suis rendu compte que ce n'était pas un jeu que tu avais entièrement imaginé seul. C'est un jeu qui est inspiré de divers autres jeux, dont le jeu Mafia, qui aurait été créé sous l'époque soviétique en URSS.
Voilà. C'est un jeu de tradition orale qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus simpliste, parce qu'il y avait les gentils et les méchants. Donc il y avait les gentils communistes et les méchants espions occidentaux.
Ah, je croyais que c'était des méchants espions soviétiques, c'est-à-dire le NKVD, en fait, qu'il fallait démasquer.
Non, c'était un jeu pendant la Russie soviétique.
OK, c'est un jeu... c'est un jeu comme une sorte de critique du système. Au contraire.
Non, ça l'a été après, ou peut-être que c'était aussi une critique du système non avouée. Parce qu'à l'époque... Bon, enfin, je n'ai pas des traces énormes, puisque c'est des gens qui l'ont transmis. On en a retrouvé des traces en Israël, comme il y a eu beaucoup d'émigrations juives après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis j'ai un ami chercheur au musée de la carte à jouer en région parisienne qui m'a dit avoir trouvé des structures qui ressemblaient dans certains jeux. C'est-à-dire que nous, on a pris cette structure de base et puis on a commencé...
À broder autour,
à créer un univers. Voilà.
Dis-moi, Philippe, tu es en vacances ici, en vacances d'affaires. Qu'est-ce que tu risques de faire dans les jours qui viennent? Justement, tu parlais tout à l'heure que tu allais retourner à une convention, mais dans les jours qui viennent...
Ben là, avec ma chérie, on va essayer d'aller un peu découvrir le nord du Québec, essayer d'aller voir les baleines. Et puis, approcher les immensités qu'on a envie de découvrir.
Chouette. Ben, dans ce cas-là, on va vous souhaiter bon voyage et bonne découverte du Québec profond. On vous espère que vous ne perdrez pas dans la jungle québécoise.
Merci beaucoup.
Et donc, c'était Philippe de Palière, l'auteur de Loup-garou de Tiercelieu. Et on vous remercie. Et on va continuer. On va aller écouter maintenant un reportage que Sébastien Léonard, sur le terrain, a constitué sur Bicoline, plus précisément le jeu Troll Ball.
Courir dans la boue, attraper le ballon, éviter l'équipe adverse, mettre la baballe dans le but. Jusqu'à maintenant, vous êtes persuadé qu'il s'agit de soccer, n'est-ce pas? Ajoutons maintenant, trucider ceux qui se dressent sur votre chemin avec votre épée. C'est là le détail qui fait l'incommensurable charme du troll ball et son caractère résolument distinctif. Mais reprenons au début. Dans un passé lointain et maintenant oublié, vivait un paisible troll qui gambadait amicalement dans la forêt. Un jour, alors qu'il était parti cueillir des fleurs pour sa douce compagne, il tomba nez à nez sur des humains. Après quelques minutes de négociation, une solution fut convenue. La tête du troll fut tranchée. Ne sachant que faire de leur trophée, les humains se bataillèrent pour l'avoir. La légende veut que celui qui la ramena dans son village connut gloire et honneur. Le jeu de Troll Ball était né. Lors de notre passage à Bicoline, nous avions pu nous entretenir avec le responsable du tournoi de Troll Ball, qui nous expliqua les règles du jeu.
Il y a les barils qui servent de but, en fait. Et il y a deux équipes à 12 joueurs. Il y a 10 tueurs et 2 guérisseurs. Et ça commence, c'est 5 contre 5 sur le terrain. Il y a une tête de troll qui est déposée au centre. Et en fait, le but étant de mettre la tête de troll dans le but adverse. Et dès que tu es touché avec une épée, t'es mort. Et il y a deux guérisseurs qui peuvent courir autour du terrain, des lignes, mais dès qu'ils rentrent en jeu, sur le terrain, ils peuvent être tués. Sinon, ils peuvent aller chercher les épées. Quelqu'un est mort, il se met à genoux, il met son épée dans les airs. Et là, le guérisseur peut prendre l'épée. À ce moment-là, le joueur peut sortir. Et il y a un autre, dès qu'il a l'épée en main, qui peut rentrer sur le terrain.
Si vous pensiez que ce jeu est un sport mineur, détrompez-vous. Le championnat devient de plus en plus animé et l'intensité ne cesse de croître d'année en année.
C'est très compétitif. Moi, c'est rendu un méchant tournoi. Les équipes, les guerriers de la montagne qui vont être en finale tantôt, ils s'entraînent à chaque semaine. La meute aussi, je pense qu'ils doivent se pratiquer. Ah oui, c'est tout le temps.
Tu traînes toute l'année?
Je pourrais aller leur demander, mais c'est ce qu'on me dit. Là. À base, je pourrais dire que ça a été soit en Angleterre, soit en Belgique, ou en France que ça a été inventé. Olivier étant de nature belge et ayant participé à des activités en Belgique là-dessus,
ouais.
Ben, il a amené le jeu avec lui.
Et
il l'a montré au monde ici. Il y a une fédération maintenant internationale de trollball qui a été... organisé, donc étant les gens de la France, la Belgique et du Québec présentement qui sont dans la ligue, là ils veulent approcher aussi, on veut approcher aussi l'Angleterre, l'Italie, parce qu'en Europe ça fait longtemps que ça existe, puis là ben, c'est ça, on veut... Puis même ici au Québec, cet après-midi, deux invités là, qui vont venir d'un autre GN du Québec, qui vont venir voir la finale pour voir ici qu'est-ce que ça dit, parce qu'ils ont vu un peu le site internet, mais ils veulent voir qu'est-ce... Parce qu'à leur GN aussi, ils veulent peut-être éventuellement commencer aussi un tournoi de troll ball.
Par chance, nous avons pu rencontrer ces dieux du stade qui, entre deux entraînements, ont accepté de répondre à quelques questions.
Moi, c'est pour qu'on le voyage.
Ben moi, je suis un Rangers. Donc, dans les grandes guerres, moi, je contourne l'ennemi pour leur arriver dans le derrière. C'est toujours emmerdant. Titi! Fait que soit je suis un héros ou un zéro, hein, parce que quand tu meurs en arrière des lignes ennemies, y'a personne qui te voit, pis t'as de l'air d'un con.
Puis tu participes au Troll Ball.
Titi! Oh oui, ça fait longtemps, hein. Moi je suis dans les raccoons. Je suis guérisseur. On a gagné deux fois la coupe. Oh oui, pis là, on s'est rendu deux autres fois en finale, une fois contre les elfes, puis l'an dernier on a perdu contre les guerriers de la montagne, qu'on va réaffronter tout à l'heure. Titi! C'est notre revanche.
Ça, c'est la finale.
Titi! Oh oui, hein, c'est tout le temps spectaculaire. Il y a plein de gens tout le tour avec des gros tambours qui crient pour leur équipe préférée. Raccoon! Raccoon! Titi! Il y a trois ou quatre personnes qui votent pour les guerriers, là. Titi! Ben nous, c'est un regroupement de plein de champions des différents tournois individuels.
C'est une équipe d'All-Stars.
Ben, en tout cas, on essaie, hein. Puis, mais sinon, chacun, nous, c'est plus difficile, mais comme les guerriers de la montagne, eux, s'entraînent à l'année longue ensemble.
C'est pour ça qu'ils nous ont battus l'année dernière.
Ouais, mais on les a... Deux ans auparavant, on les avait battus, nous, hein. C'est une longue histoire, ça commence à être une belle rivalité. Titi! Qu'on s'en va de l'habitude de se croiser en finale.
Les arrêts, c'est parce que t'es
un elfe. Ah, je suis un demi-elfe, hein. Titi! Oh, oui.
Ce jeu extrême gagne décidément à être essayé. Joignez les rangs des adeptes et invitez votre patron à une partie par exemple. Vous expulserez ainsi sainement et instantanément toute la frustration accumulée au cours des dernières années sans payer un sou de massothérapeute. Si vous désirez participer, le jeu est couramment joué dans de nombreuses grandeurs nature du Québec. Dépêchez-vous car il n'existe pas de saison hivernale. C'était un reportage de Sébastien Léonard et François Gécouillard à Shawinigan. puissancemaximale.com
Et non, vous n'écoutez pas France Inter, vous êtes bien à CKIA 88.3 et c'est l'émission Puissance Maximale qui se poursuit. Et nous avons quelqu'un en ligne, encore un invité, c'est Thomas Pintal de Cosmogone. Est-ce que tu es là, Thomas?
Oui, je suis là.
Super, et même ça fonctionne, c'est génial. Donc, Cosmogone, vous travaillez sur un projet de grandeur nature immersif pour les enfants dans l'univers de Amos d'Aragon. C'est bien ça?
Oui, absolument.
Et peut-être d'entrée du jeu, peux-tu nous parler un peu, nous décrire en général de ce projet?
Oui, ben en fait, ce projet qu'on appelle maintenant le Sanctuaire des Braves, qui est un peu en quelque sorte le en fait, va prendre vie de façon grandeur nature, et ce, en fait, dans le même coin que j'écoutais votre reportage avant. Là. En fait, on est dans le même coin que Bicoline, à Saint-Gérard, en fait, sur un domaine qui a été construit en 1882. Alors, dès l'été prochain, on parle vraiment d'une activité grandeur nature dans le monde d'Amos d'Aragon, sur un domaine qui fait 385 hectares, là, puis qui a des collines, un lac, 17 bâtiments, donc c'est un peu le setup dans lequel on va plonger les jeunes pour l'an prochain. Mais 2009,
c'est pas sur le terrain de Bicoline, c'est à côté.
C'est à côté, à côté, c'est à une trentaine de kilomètres.
OK. Et vous dites qu'il y a environ 17 bâtiments, je pense que c'est des bâtiments du 18e, 19e siècle.
En fait, le premier était construit en 1882, puis le dernier, c'est en 1900, je ne sais plus gros quoi, là, mais 1904-1905.
Et ça, c'est dans l'univers d'Amos d'Aragon, c'est un univers médiéval fantastique inventé par Brian Perrault, un auteur québécois. Peux-tu peut-être décrire aux gens qui ne connaissent pas cet univers-là, qu'est-ce que c'est d'Amos d'Aragon?
Oui, mais en fait, Amos d'Aragon, c'est les aventures d'un jeune héros qui recherche en fait des masques pour retrouver l'équilibre du monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Sanctuaire des Braves, en fait, le nouveau chapitre, on est 60 ans après les aventures d'Amos d'Aragon.
OK. Est-ce que ça se peut-tu que ce projet-là soit inspiré, cet univers-là soit inspiré d'Harry Potter?
Ben, regarde, il y a des... Oui, non, mais en fait, il n'est pas inspiré. Je ne dirais pas qu'il est inspiré d'eux parce que le contexte d'Harry Potter est très. C'est des jeunes qui vont à Poudlard dans une école de sorcellerie. Alors, Camus d'Aragon, c'est vraiment un aventurier. Puis il se promène à travers des terres indescriptibles là, et de tout genre. C'est vraiment un voyage à travers les mythes qu'on connaît tous de la Terre.
OK, donc c'est inspiré de certains contes et légendes, quoi?
Ben, Brian Perrault est un conteur. Donc, il s'est vraiment inspiré des mythes de l'humanité. Donc, à travers les 12 tomes, quand tu lis ça, en fait, tu te promènes vraiment d'un mythe à l'autre. Contrairement à Harry Potter, si on prend la comparaison. En fait, Harry Potter, c'est très original, dans un univers très original, qui est bien plus inspiré des légendes anglo-saxonnes. Alors, Camus d'Aragon, on se promène dans un peu tous les types de mythes, là.
Dis-moi, Sébastien Léonard, là, je prends la parole, donc j'apparais tel quel pour t'interviewer en même temps. Dis-moi, j'aurais une question pour toi, parce que là, on, pour bien situer la chose, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez construire un ensemble, je dirais, de maisons, vous allez construire un ensemble d'activités, et tout ça, c'est quoi le timing exactement? C'est quoi l'échéancier que vous vous êtes donné pour ce qui est de la concrétisation du projet?
Oui, mais à vrai dire, je vais d'abord corriger quelque chose. On ne construit rien pour 2008, pour 2008, parce que les bâtiments sont déjà construits.
OK, d'ailleurs, tous les bâtiments sont déjà là.
Oh oui, c'est des bâtiments fantastiques, là. Je veux dire, c'est de toute beauté. Là. C'est des vieux chalets bâtis par des riches américains au 19e siècle. Alors, tout est en bois rond. Il y a, je crois, il y a 20 foyers dans les bâtiments. Ce qui fait qu'on vraiment, ce qui est magique avec l'endroit, c'est qu'on arrive déjà dans un lieu qui est complètement intemporel, qui est habité par déjà par des légendes extraordinaires. Puis nous autres, on arrive, puis on va transformer les lieux un peu, on va décorer davantage.
OK. Et qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que vous allez chercher un certain type de personnes, par exemple les enfants?
Oui, ben pour l'an prochain, en fait, c'est les enfants de 10 à 14.
Mm-hmm.
Un séjour. C'est vraiment 48 heures. En fait, pour les grands joueurs de grandeur nature, en fait, plusieurs s'entendent pour dire que le modèle idéal, c'est un 48 heures. En fait. Alors, on y va vraiment avec ce modèle-là, qui est un 48 heures. Les jeunes arrivent le jour 1 vers les 4 heures. Après ça, c'est l'aventure qui commence. On passe une première nuit, il y a une pleine journée, une seconde nuit, et puis là, ça se termine le troisième jour.
Et peux-tu nous dire, c'est quoi les activités qui sont prévues pour ces jeunes enfants-là?
Eh bien, les activités... Ce qu'il faut voir des activités, en fait, c'est vraiment une aventure. Alors, les jeunes, quand ils arrivent, sont déjà séparés en trois groupes. Ils sont séparés dans les trois groupes, en fait, des bois de Tarcasis, la ville de Bérion et de Bratel-la-Grande, qui sont trois lieux qui sont vraiment trois lieux qui sont très connus chez les fans d'Amos d'Aragon. Alors, déjà, ils se séparent. Et quand ils arrivent sur le site, en fait, c'est que le seigneur Aldoronde, lui, sent la menace, c'est-à-dire des gobelins descendent du nord. Alors, et ça... bibliothèque qui est remplie de grimoires magiques et menacée par la présence des gobelins en question. Donc là, l'aventure commence et chacun des groupes va devoir participer vraiment dans des enquêtes, dans des opérations en forêt. Ils vont devoir observer puis essayer d'amadouer une créature des bois, un homme-arbre. On parle aussi d'une créature aquatique, en fait, on va juste voir le dos, mais ondulée sur le lac. Donc, c'est vraiment le scénario en soi, c'est vraiment de contrer l'assaut des gobelins pour éviter que les grimoires magiques ne se retrouvent entre les mains du clan des bonnets rouges.
C'est toute une aventure en fait que vous allez proposer sous la forme d'activité. Dis-moi, est-ce que vous allez chercher les enfants dans les écoles ou est-ce que vous adressez plus à des familles qui vont envoyer leurs enfants pour un stage d'été?
Ben, on a actuellement, on vise d'abord la famille. C'est-à-dire des enfants, la famille offre à leurs jeunes une aventure dans une destination imaginaire. Maintenant, on n'est pas du tout fermé à l'idée de recevoir des écoles, mais dans un premier temps, on cible vraiment notre travail pour aller chercher des enfants qui, eux, déjà à l'âge de 10 ans, 14 ans, ils ont déjà leur épée en mousse dans le cours en train de se battre à être l'aventurier. Donc, ce qu'on leur offre, c'est l'opportunité. Puis, ce qu'on offre aussi à la famille, c'est d'amener les enfants chez nous et de leur offrir un cadre qui est très sécuritaire, un encadrement qui est très professionnel, puisqu'on parle de 60 jeunes et une équipe d'animation fixe de 20 personnes. Donc, c'est vraiment un ratio d'un pour trois.
Ben, génial. On va suivre ça avec intérêt. Peux-tu dire peut-être aux gens qui sont intéressés à quel site Internet ils peuvent se diriger?
Oui, absolument. Absolument. C'est www.berion.com.
Très bien. Je te remercie, Thomas, et bonne chance pour ce projet merveilleux.
Absolument.
Ciao. Donc, on se laisse sur une petite... Bon, on va venir après, là, restez à l'écoute, mais on va maintenant écouter une petite pièce musicale. Vous êtes toujours à puissance maximale. Nous sommes de retour à puissance maximale. Et comme quoi, nous, on n'arrête pas souvent, n'est-ce pas? Cette émission, on travaille très fort pour vous, messieurs, dames. Nous avons en entrevue un nouveau personnage. C'est Stéphane Thériault de Royal Con. Bonjour, Stéphane. Est-ce que tu es en ligne, Stéphane?
Que tu m'entends?
Oui, salut. Donc, bienvenue à puissance maximale.
Rire.
Donc, tu es à Montréal. Dis bonjour aux gens de Québec qui écoutent tous avec assiduité.
Ah, bonjour à tous les gens de Québec. à la convention.
Oui, donc tu vas justement nous parler de Royal Con, qui est une convention montréalaise. Peut-être pour décrire un peu aux gens qu'est-ce que c'est. Donc, c'est du 14 au 16 septembre, donc c'est en fin de semaine qui vient. C'est un événement ludique qui touche beaucoup aux grandeurs nature, aux jeux de figurines et à des jeux de plateau et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on a une thématique aujourd'hui très grandeur nature, n'est-ce pas?
C'est ça, en gros, c'est tout simplement une convention de jeux en général qu'on a mis sur pied l'année passée pour la première année. Donc, on s'est plutôt concentré sur ce qui était les jeux de rôle, les jeux de plateau, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. On a eu des jeux de figurines, des tournois, des choses comme ça. Cette année, on a décidé de faire un petit peu différent. Donc, on a les mêmes choses que l'année passée, mais on s'est diversifié un peu. On a deux événements de grandeur nature. On a ce qu'on appelle un théâtre interactif de Vampire de Ricky.
Dans le monde de vampires, il faut dire aux gens peut-être un peu qui n'auraient peut-être pas encore compris, hein, parce qu'on en parle depuis tantôt, les grandeurs nature, c'est très simple. On incarne le rôle d'un personnage dans la vraie vie. Donc, on porte souvent un costume et on incarne un personnage et on vit des espèces de scénarios. Tous conçus par les animateurs. Et cette fois, vous aurez justement, ça s'appelle le tournoi, un peu le Casino Royal, c'est ça?
Comment?
Donc, ça va se passer sur un bateau, ça. Donc, c'est un espèce de gène de vampire sur une croisière.
Évidemment, c'est le setup, si vous voulez, de l'aventure. Évidemment, ça ne se passera pas vraiment sur un bateau, dans le sens où on n'a pas loué un bateau pour ça. Mais dans la salle, oui, c'est ça. C'est tout simplement... c'est organisé par la Camarilla de Montréal. Ça fait partie de leur groupe. Et ils ont élu un prince de Montréal, le prince de Montréal, voici environ un ou quelques années. Et c'est une célébration que les différents vampires de Montréal, dont les différents vampires de Montréal sont convoqués pour célébrer l'avenue du prince. Oui. Et ça se passe à bord d'un bateau avec une soirée casino. Donc on va avoir une roulette, on va avoir des tables de blackjack, on va avoir des tables de poker. Évidemment, pas les grosses tables, ça aurait coûté trop cher, mais on s'est arrangé pour avoir quelque chose d'intéressant pour que les gens puissent jouer pour de vrai.
Il faut dire aux gens que ce sont de réels vampires. Sinon, vous avez quoi? Le tournoi royal. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le tournoi royal, c'était l'idée d'un de nos nouveaux organisateurs cette année qui a eu ça parce qu'il a déjà travaillé avec ces gens-là. Ce sont un tournoi qu'on organise parmi 8 organisations de grandeur nature du Québec. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est des organisations médiévales fantastiques qui se regroupent peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, à différentes places à travers la province pour jouer des scénarios de grandeur nature. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité 8 groupes différents à élire chacun leur champion. Et chacun de leurs champions vient s'affronter dans un tournoi pendant la nuit la soirée du samedi. Pendant la convention.
Et ils vont se battre et c'est quelque chose de vraiment original.
Dis-moi, moi j'aurais une question pour toi parce qu'en fait, j'avouerais que quand j'écoute le nom que vous avez choisi pour votre événement, je me dis que vous êtes sûrement une grosse gang d'anglophones, sûrement, parce que appeler son événement Royal Con en français, ça fit un petit peu moins bien, disons que ça sonne un petit peu moins sympathique. D'où est-ce que ça vient ce nom-là?
Ben, c'est tout simplement, au début, effectivement, dans la première année, il y avait un peu plus d'anglophones, mais ça n'a pas été vraiment, ça a été juste plus pour, je pense, une habitude, tout simplement, parce que c'est une espèce d'habitude d'utiliser le mot, de finir le nom d'une convention par le mot Con. En anglais. Sauf que de l'année prochaine, on est vraiment en question, on va essayer de trouver un nom, de garder le nom anglais, mais de trouver un vrai nom francophone, là, justement, parce que oui, on a eu des commentaires là-dessus. Et comme un de nos objectifs, c'est de faire quelque chose qui est 100% bilingue, et de toute façon, même sur le comité organisateur, il y a plus de francophones que d'anglophones maintenant.
Justement, par rapport à ça, est-ce que les participants sont majoritairement anglophones ou est-ce qu'ils sont majoritairement francophones?
En grande majorité, ils sont francophones. En tout cas, cette année, là, dans la liste des personnes qui sont enregistrées à l'avance, je dirais qu'il y a au moins en 2 et 3 personnes, 2 ou 3 francophones pour chaque anglophone. Cependant, ce qu'on a fait, c'est que quand un maître de jeu propose une partie, il doit décider lui-même à quelle langue cette partie-là va se dérouler.
Oui, c'est ça, parce que tu ne peux pas faire une game de jeu de rôle en français et en anglais simultanément. Ce serait un petit peu infernal, je pense. Hein?
On a essayé l'année passée en disant, par exemple, que peut-être que quelqu'un il est capable de comprendre l'anglais ou comprendre le français sans nécessairement le parler. Mais donc, on permettait les jeux de bilingue. Mais on a des problèmes avec ça, justement. Il y en a qui ont mal interprété ce que le mot bilingue. On n'était pas nécessairement assez clair sur ce que le mot bilingue voulait dire dans ce contexte-là. Donc, on a décidé d'éliminer ce genre-là. Donc, on va tout simplement dire une partie se joue soit en français, soit en anglais. À part les gros événements, où ce que là, évidemment, il va y avoir probablement un petit peu plus de personnes qui vont parler dans les deux langues.
Mm-hmm. Dis-moi, juste une autre question. C'est un événement qui est quand même relativement récent. Et puis là, je vois quand même qu'en très peu de temps, vous avez réussi à réunir énormément de participants. Là, vous êtes rendu à combien au niveau de la participation?
L'année passée, on avait 285 personnes différentes qui se sont présentées. Cette année, évidemment, on ne sait pas encore combien il va y en avoir. Ce qu'on peut dire, c'est que de toutes les personnes qui sont inscrites à l'avance, il y en a environ entre 25 et 30 % de plus que l'année passée. Notre objectif est d'environ 350 cette année.
Et pour finir, peut-être expliquer, comment est-ce que vous expliquez ce succès-là?
Ben, c'est tout simplement, écoutez, il y a beaucoup de joueurs à Montréal. C'est juste tout simplement que on s'est toujours demandé comment ça se fait qu'il n'y avait pas personne qui en avait profité pour faire une convention, mais Donc, ce qu'on a fait, finalement, c'est tout simplement combler un vide qu'il y avait, que personne, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était disposé à y aller. Et ce qu'on a fait, c'est que justement, on a été parler à tous ceux, on a été dans les magasins, on a distribué des tracts, on a fait beaucoup de publicité en ligne, évidemment, on a visité beaucoup de forums, il y a beaucoup de forums de jeux dans la région de Montréal, dans la région de Québec et même en province. Donc, on y a été, on a fait de la publicité et on a été très, 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 très satisfaits.
C'est génial. Je te remercie, Stéphane. Écoute, donc, on rappelle aux gens que c'est Stéphane est un des organisateurs du Royal Con 2007. Ça se passe à Montréal. C'est un événement qui rassemble des grandes natures, des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux de figurines, etc. Et s'ils veulent avoir plus d'informations, on peut aller sur le royalcon.ca. Et peut-être rappeler aux gens, c'est à quel endroit que ça va se produire, cette convention, avant qu'on se quitte rapidement?
C'est à l'hôtel Days, hôtel et centre de conférence au 1005 Ruki.
Excellent. Je te remercie, Stéphane.
Ça m'a fait plaisir.
Ciao. Donc, c'était Stéphane de RoyalCon. Donc, maintenant, on est rendu à l'agenda ludique de la semaine, je crois.
C'est déjà l'agenda ludique de la semaine. Mon Dieu, mais le temps passe tellement vite. Il est déjà 52, oui, exactement. En fait, quand on écoute, quand on parle de jeu, c'est toujours beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans le monde merveilleux du monde ludique de Québec et du Québec?
C'est une excellente question. J'ai un tour sur ma feuille.
J'ai l'impression que je t'ai pris de court.
Donc, comme d'habitude, à tous les lundis, les gens peuvent se diriger vers le bar L'Astradamus, situé sur la rue Couillard. Hein. La rue Couillard à Québec, c'est pas vraiment compliqué. De la rue Saint-Jean, elle se divise en deux un jour et ça devient la rue Couillard. Donc, à toutes les semaines, lundi à soir, donc ce soir, il y a des parties de jeux de plateau. Ça coûte pas très cher et il y a de la bonne boisson alcoolisée et des chips pour toutes les geeks. Malheureusement, ce n'est pas dans un sous-sol. Deuxièmement, demain, mardi, comme à chaque semaine encore, il y a des parties de Go au café Aga sur le boulevard Charest-Est. Et sinon, évidemment, du vendredi au dimanche, vous pourrez aller au Royal Con à Montréal pour jouer à toutes sortes de jeux complètement hallucinants. Sinon, j'aurais peut-être une petite section pour... Ah oui, j'ai oublié, il y avait un quiz que on n'a pas fait. Donc, on va peut-être, pour le temps qui reste, on pourrait lancer une question quiz aux gens. Et s'ils répondent, ils courent la chance de gagner un Aki Activision. Et je sais que tout le monde va se l'arracher. Donc, c'est très simple. Si vous répondez correctement à la question, vous appelez au 529-9026, 529-9026, la question étant, quel était le second invité des journées ludopathiques de Granby? Il y avait Philippe de Palière, il y avait une deuxième personne, je vous donne un indice, il était de Ravensburger. Quel était son nom? Et si vous appelez au 529-9026, vous gagnerez un magnifique Aki Activision. Est-ce que c'est bien compris? Appelez immédiatement.
N'oublions pas de dire que les gens peuvent nous écouter l'émission aussi en différé sur Internet grâce à notre site puissancemaximale.com. Ils auront toute l'information et puis peut-être même ils pourront participer en différé à ce merveilleux quiz que tu nous as mis et sur lequel je sens vraiment qu'il n'y aura que des geeks qui seront capables de pouvoir répondre à celle-là. C'était vraiment dur.
Donc, comme dit Sébastien Lanard, vous pouvez aller sur puissancemaximale.com si vous connaissez la réponse. Vous pouvez aussi m'écrire. Donc, françoisgicouillard@gmail.com. Sinon, allez sur puissancemaximale.com. Tout est là. Toutes les informations sont là. Sinon, peut-être on a encore un peu de temps. Peut-être que je pourrais parler des nouvelles ludiques de la semaine. Donc, c'est intéressant. Cette semaine, la semaine dernière, en fait, si vous écoutez les nouvelles, on parlait beaucoup des jeux chinois empoisonnés. Hein. C'était un scandale dans le domaine du jouet. Donc, c'était au sujet des jouets empoisonnés fabriqués en Chine. Donc, ces jouets ont ont le défaut d'avoir été recouverts d'une peinture à base de plomb, qui est évidemment nocif pour les bambins, n'est-ce pas, le plomb. Et l'entreprise Mattel a rappelé plus de 25 500 jouets à travers le monde. Hein. Il faut dire que la Chine produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. 80% des jouets sont effectivement produits en Chine. Hein. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Voilà. Et je vous laisse ainsi sur une question existentielle. Il existe le café équitable, il existe les produits bio, mais à quand? Le jouet équitable.
Oui, à quand? Puis on va se rester là-dessus. Puis en fait, on a juste le temps de passer une dernière chanson à Philippe aimerait nous dire le petit mot de la fin, et puis ça, ça va nous faire plaisir aussi.
Les jeux de société lui-même sont des jeux équitables, fabriqués exclusivement en Europe pour les Européens et pour les Québécois.
Donc achetez-en, c'est équitable, c'est extraordinaire. Vous ferez en plus une bonne œuvre, en plus de s'amuser, évidemment.
Donc sinon, je pense qu'on va vous laisser sur une chanson. Est-ce qu'on revient pour une conclusion ou on peut y aller directement à la conclusion?
On part sur la conclusion.
Donc, vous écoutiez puissancemaximale.com. On remercie nos invités, Philippe Depalière, Stéphane Thériault et Thomas Pintal de Smogon.
Devenez membre de Radio Basse-Ville, CKIA FM 88,3. Vous croyez à l'importance des radios communautaires et d'une presse libre?
Devenez membre. La centaine de réalisatrices et réalisateurs bénévoles qui vous informent et vous divertissent chaque semaine ont besoin de votre soutien.
Vous aurez droit de vote à l'Assemblée générale et pourrez profiter de rabais chez nos 17 partenaires.
Pour en savoir plus, téléphonez-nous au 529-9026 durant les heures de bureau ou passez-nous voir au 600 Côte-d'Abraham.
Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec recherche une personne dynamique pour assumer la coordination de la Fondation. Il s'agit d'un contrat de 4 ans.